Le gouvernement français a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux Africains qui souhaitent entrer en France. Quel est l'impact de cette décision sur la dégradation de l'image de la France sur le continent? Les explications d'Hélène Conway-Mouret, la sénatrice des Français de l'étranger, qui revient précisément d'une tournée dans plusieurs pays d'Afrique.
D'abord, une observation, celle en effet de la montée de plus en plus visible d'un sentiment anti-français, alimenté par cette crise des visas, même si cette montée était antérieure à cette crise, mais je crois qu'elle est venue l'aggraver et l'accélérer également. J'ai passé beaucoup de temps, pendant près de 8 semaines, en Afrique. J'ai visité un bon nombre de pays, et puis récemment en Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie. Et en effet, il n'y a pas un interlocuteur que j'ai rencontré qui ne m'a pas parlé de ce problème. Jusqu'à l'aéroport où une jeune fille, où je voulais acheter quelques dates pour les ramener chez moi, m'a interpellée en pensant que je travaillais à l'ambassade de France, me disant que ce n'était pas possible, qu'elle avait fait toutes ses études, qu'elle possédait un master en littérature française et que pour la première fois, elle avait l'opportunité d'une formation qui lui était dispensée dans le cadre de son activité professionnelle à l'aéroport et qu'elles étaient d'eux, son amie avait eu son visa et elle non, sans aucune explication, et me demandant pourquoi elle avait fait tous ces efforts. Elle parlait parfaitement français et je me suis dit que finalement, jusqu'à mon départ, eh bien, on m'avait parlé de ce problème avec, dans les mots de cette jeune fille, énormément de déception, mais un très gros ressentiment, me disant « mais comment est-ce que la France peut penser que je serais finalement une menace pour elle ?» Voilà, donc ce que j'ai pu noter, je l'ai noté au contact direct sur le terrain.
Qu'est-ce qui a motivé la décision de réduire de 30 à 50% le nombre de visas pour entrer en France?
Le président de la République, en Conseil de défense, a décidé de ces quotas-là et d'imposer un quota de réduction à hauteur de 30% pour la Tunisie. Il n'y a pas de quota véritablement pour l'Afrique subsaharienne. Il y a simplement, dans l'ensemble du réseau, des problèmes, d'abord de délai parce que les équipes consulaires ont été réduites au fil du temps à un minimum. Des prestataires privés qui ont été identifiés pour les rendez-vous, mais les rendez-vous sont incroyablement longs. Et ensuite, eh bien, des quotas, en effet, dans certains pays. Alors, c'est basé sur finalement le fait d'un problème, d'un blocage au niveau diplomatique et au niveau des exécutifs, où la France avait demandé notamment aux pays du Maghreb de reprendre ses ressortissants qui se trouvent illégalement sur le territoire français en leur accordant des laissez-passer et n'ont pas été entendus. À ceci près que, et c'est ce que je dénonce depuis déjà plusieurs semaines, c'est que l'instrument utilisé par la France, à mes yeux, est absolument le pire que l'on pourrait utiliser, c'est-à-dire qu'en représailles, nous punissons les sociétés civiles de ces pays et notamment, et cela ne vaut pas simplement pour les élites hein, qui seraient francophones et francophiles, mais pour les classes moyennes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons finalement une société entière qui se sent punie parce qu'ils sont tous touchés. On pourrait aussi, sur le plan politique, se poser des questions sur pourquoi finalement s'attaquer à la francophonie de cette façon. Parce que nous avons aujourd'hui un détachement finalement de la France, à la fois déjà de ses élites, mais cela est le cas déjà depuis quelque temps au profit de l'anglais, mais aujourd'hui de la société, on va dire, de la classe moyenne et donc de la plus importante.
Est-ce que vous avez des pistes de solution à ce problème ?
Moi, je l'ai fait en montant puisque j'étais ministre déléguée aux Affaires étrangères. Nous avions en effet des différends avec un certain nombre de pays. Mes équipes et celles de mes homologues passaient beaucoup de temps en proposition et nous avions des rencontres assez régulières jusqu'au moment où, sur la base de la réciprocité, nous trouvions une solution. Je ne comprends pas aujourd'hui que cela doive passer par un rapport de force et que ceux qui n'ont rien à voir avec ce blocage diplomatique soient les victimes aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe. Ce sont des gens de toutes les catégories sociales et notamment de ceux que nous devrions accepter à bras ouverts, à savoir les étudiants, les stagiaires, ceux qui sont en formation, ceux qui viennent voir leur famille.
Sans compter les chercheurs, les universitaires.
Oui, absolument, les artistes, enfin. Et c'est cela aujourd'hui que finalement nous bloquons, à qui nous signalons que nous ne souhaitons pas qu'ils viennent sur notre sol. Alors ce qu'ils font, et c'est ce qui m'a été dit, d'abord ils choisissent un autre pays européen comme point de destination première, ce qui leur permet, grâce au visa Schengen pour la plupart, de quand même venir en France voir leur famille ou assister aux colloques auxquels ils doivent participer. Mais ceux-ci vont maintenant en Espagne, ils vont en Italie, ils vont beaucoup en Turquie.
Quelles peuvent être les conséquences pour la France de cette situation ?
Là, ce sont nos intérêts économiques qui sont directement visés, puisqu'on me disait que, eh bien, au Maghreb, l'été dernier, la destination principale qui avait été choisie, c'était la Turquie. Voilà. Et donc, je pense que c'est une grosse maladresse diplomatique. Il faut cesser de privilégier le rapport de force. Il faut cesser d'être dans l'annonce des quotas pour expliquer que nous avons une politique très dure en matière d'immigration. C'est une immigration légale, une immigration temporaire, aujourd'hui à laquelle nous nous attaquons, et qui, à mes yeux, est vraiment le pire des choix que nous pouvons faire. Nous punissons nos amis.
Et si les consulats français en Afrique pouvaient avoir davantage de liberté pour traiter les demandes et accorder les visas en fonction de chaque situation?
Alors, dans un monde idéal, en effet, c'est la solution. C'est ce que nous avions auparavant et nous n'avions pas cette crise. Aujourd'hui, nous avons un alignement des planètes qui fait que, en effet, des quotas sont imposés de réduction et les fonctionnaires font leur travail. Quand on leur dit c'est un visa sur deux qui doit être refusé et qu'on sait pertinemment, par exemple, qu'au Maroc, il n'y a pas plus de 13% de visas qui sont refusés, cela veut dire très concrètement que 37% devraient l'être et que ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui victimes et qui le ressentent très très mal parce qu'ils savent que c'est parfaitement injuste. Donc, en effet, dans un monde idéal, nous devrions avoir des agents consulaires qui soient en capacité, en effet, de faire leur travail correctement et de refuser à ceux qui n'ont pas vocation, en effet, à venir en France parce qu'ils présentent un risque migratoire pour différentes raisons de le faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ce moyen-là parce qu'ils sont trop peu nombreux. Les renforts venant de Paris qui ont été annoncés par la ministre ne connaîtront pas les personnes ou les personnalités locales parfaitement justifiées de venir en France. Et donc là, nous avons un processus qui est engagé. Et sincèrement, je ne vois pas comment on va revenir en arrière de dématérialisation. Enfin, moi, on m'expliquait dans un consulat que je nommerai pas qu'il y a 80 visas qui sont délivrés par jour par agent qui travaille au consulat, ce qui donne à cet agent 6 minutes maximum pour pouvoir instruire et analyser le visa. Comment voulez-vous que la personne, quand on lui dit c'est 1 sur 2, eh bien, dès qu'il a le moindre petit souci, mette ce visa de côté parce qu'il sait qu'il y en a 1 sur 2 qu'il doit retoquer. Donc, on a une sorte d'abattage, de déshumanisation totale, puisque ce n'est pas la prise en compte du détail de la personne, de ce qu'elle représente, des attaches qu'elle peut également avoir avec la France qui est prise en compte, mais on fait du chiffre. Moi, je ne blâme absolument pas ceux qui sont préposés à cela parce qu'ils sont les premiers à en souffrir, parce que les gens sont mécontents et donc il y a des agressions, et ça, un chef de chancellerie m'en a parlé récemment, des agressions verbales de plus en plus importantes, parce que les gens sont frustrés, ils sont en colère, ils ne comprennent pas, et tout ça va dans le mauvais sens. Sincèrement, au vu des économies qui sont demandées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je ne vois pas comment on va renverser cette volonté de dématérialiser, de centralisation également, parce qu'on éloigne de plus en plus, finalement, les demandeurs de ceux qui instruisent les demandes. Avant, par exemple, les demandes étaient instruites à Agadir, maintenant elles ne le sont plus. Tout est concentré à Casablanca. Eh bien, il y a un certain nombre de personnalités marocaines qui, chaque année, venaient en France pour des raisons familiales parfois, mais surtout professionnelles, à qui un refus a été opposé cette année. Ils ne sont plus connus, ils ne peuvent pas être connus à Casablanca. Voilà. Malheureusement, j'ai rencontré les mêmes problèmes dans les délais et dans les refus qui sont opposés pour toute l'Afrique francophone, malheureusement.